Madame Dulou a lu dans le journal que j'étais reçue au collège.
Bien sûr, les résultats des examens sont toujours dans le journal. On l'achètera, on le gardera.
Je ne comprends pas puisque l'enseignement est gratuit.
Les cours, oui, mais c'est pas tout. Il y a les livres, les cahiers, les vêtements. Il faut s'habiller pour aller à l'école.
C'est-à-dire, on nous a fait croire que le désir, enfin d'un homme en tout cas, dépendait de la beauté de la femme. Et je me suis aperçu que c'était complètement faux.
Complètement faux. Que c'était le sexe et que le reste ne comptait pas.
On est bête quand on est jeune. C'était des caprices de gosse, c'était terrible ça.
Comme quoi une photographie peut être personnellement pornographique tout en étant publiquement décente. Mais toutes les photographies sont sentimentales.
J'arrive pas à savoir si j'ai la cote ou non avec elle.
Ah oui, elle m'avait dit qu'elle vous avait vu ce matin avec un Père Noël aux yeux bleus, qui vous connaissait.
Sous ma barbe, j'étais devenu confiant. Des filles qui n'avaient jamais levé les yeux sur moi me souriaient en passant.
Vous avez déjà trompé votre mari ?
Quelle coïncidence.
Ouais, je sais bien qu'il faut jamais faire confiance aux femmes. Mais je m'en fous, je suis comme ça.
Je ne peux m'intéresser qu'à quelqu'un que j'intéresse déjà.
J'ai envie de rebaiser avec vous.
Écoutez, mon vieux, je dois vous dire, vos amours commencent à m'emmerder.
D'habitude, ce sont les garçons qui parlent. Ce sont peut-être de mauvaises habitudes.
Parler avec les mots des autres, ça doit être ça, la liberté.
A, B, première.
C'est la dernière fois, je vous ai déjà dit de pas faire ça.
Alors, bonjour tout le monde, bonjour Fabien.
Salut Pierre, bonjour à tous.
Donc Fabien, le programmateur du cinéma Le Bourguet à Fort-Calquier, qui nous rejoint pour une nouvelle émission spéciale concernant la rétrospective Jean Eustache qui va nous proposer à Fort-Calquier, donc d'octobre à avril, c'est ça ?
À peu près, voilà, de l'automne au printemps, c'est un peu la rétro hivernale, comme il y a pu y avoir par le passé pour Bresson, Tarkovsky, Piala, Pasolini l'an dernier. C'est cette rétrospective à raison d'une séance par mois qui couvre tout l'automne-hiver jusqu'au printemps.
Donc, la chance de faire des nouvelles découvertes cette année encore. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je suis très content de découvrir un peu plus largement l'œuvre de Jean Eustache, puisque je pense que je suis le spectateur type qui ne connaît que la maman et la putain de Jean Eustache. Et donc, j'imagine que c'est un arbre qui cache... un bel arbre, mais qui cache une forêt sans doute intéressante. Et très content que tu prennes un peu de temps pour en parler aux auditeurs de Radio Zinzine.
Oui, merci de m'accueillir. T'emploies l'expression « l'arbre qui cache la forêt » à propos de la maman et la putain. C'est vraiment l'expression qui s'impose, puisque peut-être plus encore que Jeanne Dielman pour Chantal Akerman, film est aussi d'une ampleur et d'une dimension culte qui dissimule une œuvre extrêmement riche derrière, bah, dans le cas de Stache. Le problème, c'est que plus encore que pour Akerman, au mieux on a vu La Maman et la Putain, lors de projections parisiennes comme C'est ton cas ou mon cas, à la Vidéothèque de Paris ou à la Cinémathèque française, plus rarement encore à la télévision, notamment à la mort en 2013 de Bernadette Lafont. Arte avait diffusé le film, mais c'est un film qui a connu très peu de diffusion télé.
J'ai eu la chance de le revoir à Fort-Calquier l'an dernier.
Exactement, lors d'une projection épique d'ailleurs, avec une interruption comme quoi la malédiction Eustache se poursuit. Ouais, c'est un cinéaste vraiment qu'on méconnaît gravement, dans la mesure où cet homme-là est mort en 1981, à 42 ans, il s'est suicidé. On sait les difficultés qu'il a rencontrées, on y reviendra, pour réaliser, produire ses films. Mais depuis une quarantaine d'années, ses films sont quasiment invisibles, où ils circulent sous le manteau d'Internet depuis une vingtaine d'années maintenant, dans des copies assez misérables, avec des sous-titres chinois, des copies très mauvaises surtout, et des fichiers qui circulent tant bien que mal, puisque les films n'étaient pas accessibles, du fait des ayants droit, en l'occurrence l'un des fils de Jean Eustache, qui faisait une sorte de mesure de rétention assez incompréhensible et donc mystérieuse. Mais un accord a été trouvé enfin, alors que bien des distributeurs se sont efforcés de le convaincre depuis des années pour une édition DVD, une édition Blu-ray peut-être. Il n'y a jamais eu d'édition VHS, il y a rarement eu des rétrospectives depuis 40 ans. Donc ces films, grâce à Charles Gilibert, qui a pris la tête il y a quelques années des films du Losange, formidable producteur depuis, qui est un des producteurs emblématiques de la Nouvelle Vague. C'est le film du Losange qu'on produit, les premiers films d'Éric Rohmer par exemple, de Wenders par la suite. donc 60 ans, puisque c'est les 60 ans cette année des films du Losange, créé par Barbet Schroeder, dont un nouveau film d'ailleurs sort prochainement. Bref, les films de stage deviennent à nouveau disponibles, tels qu'on les a jamais vus, avec une liberté de circulation, si j'ose dire, qu'ils n'avaient jamais connue, même du vivant de stage. Donc c'est une sorte de fête, en tout cas pour moi, qui n'a jamais eu l'occasion de voir les films ainsi rassemblés, et encore une fois dans des bonnes conditions et en salle de cinéma, puisque La Maman et la Putain, j'ai fini par le découvrir en salle, je crois bien, à la Vidéothèque de Paris, à une époque peut-être où tu traînais dans le coin, mais voilà, les autres, je les ai découverts à la télévision, dans le meilleur des cas, et sinon à travers des fichiers. Et puis il reste des films que je n'ai pas vus et que je me suis refusé à voir dans de mauvaises conditions, et que je vais donc enfin découvrir avec vous au cinéma de Fort-Calquier en version restaurée. Voilà, donc c'est une fête à laquelle se joint d'ailleurs, je le signale tout de suite, un ouvrage remarquable, puisqu'il n'y a pas tant d'écrits, l'œuvre demeurant assez invisible malgré la dimension assez mythique qu'a pris, et par cela même, le personnage de Jean Eustache et ses films. Un livre de Philippe Azoury vient d'être publié cet été aux éditions Capricci, et on aura le plaisir, j'y reviendrai, d'accueillir Philippe Azoury, qui a écrit ses livres remarquables en décembre. Voilà.
Ok, donc tu vas nous faire profiter de cette rétrospective en programmant ces films à Fort-Calquier. Alors, pour situer, tu viens de dire qu'il est mort en 81 à 42 ans, donc j'imagine que son œuvre se situe dans les décennies 60 et 70.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on est en pleine nouvelle vague. C'est quoi son rapport avec la nouvelle vague?
Oui, alors, très bonne question. Effectivement, il était né en 1938, il est né à Pessac. C'est important de le situer un peu d'un point de vue biographique, parce que cette biographie, elle a quand même une place très, très forte dans son travail et dans ses films. Donc, il est né à Pessac, à côté de Bordeaux, en 1938. Il va passer ses toutes premières années d'enfance à Pessac, avec sa grand-mère. Et sa grand-mère compte infiniment dans sa vie et dans son œuvre. Et puis, au tout début des années 50, il a une dizaine d'années, il va rejoindre sa mère, avec qui il avait une relation assez problématique, à Narbonne. Et il va grandir à Narbonne, et Narbonne est présente également dans certains de ses films, auxquels on reviendra. Il arrive à Paris en 57, donc on est vraiment légèrement en amont de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, c'est 58-59 pour l'année fatidique et 60, et le tout début des années 60. Mais lui, il va faire son tout premier film en 64, c'est-à-dire déjà la fin de la Nouvelle Vague, proprement dite, s'amorce en quelque sorte. Mais il avait une relation très forte au Cahier du Cinéma. Dès lors qu'il est arrivé à Paris avec un CAP d'électricien en poche, hein, c'est son seul diplôme, il n'avait aucune formation, et il venait vraiment d'un milieu prolétaire, pas à même de financer des études, et il n'était pas du tout de ce public bourgeois qui pouvait par ailleurs fréquenter aussi les cinémas ou les institutions cinématographiques. Mais on sait que la Cinémathèque française d'Henri Langlois, depuis 1936 et ô combien dans les années 50, a bénéficié à la formation de tous les critiques de cinéma, Godard, Rivette, Chabrol, Truffaut, Romère, ô combien. Et quand il arrive en 57, on est vraiment à l'époque des Cahiers jaunes, la grande période des Cahiers, hein, depuis la création en 51, et qui va se poursuivre dans les années 50 et 60. Et il va épouser une femme, Jeanne Delos, qui se trouve être la secrétaire des Cahiers du cinéma. Donc, de par le statut de sa compagne au Cahier du cinéma, il va pas mal fréquenter tout ce petit monde. Mais lui est plus jeune. C'est-à-dire que Godard est de 1930, Romère est de 1922, Truffaut est de 1932, lui, il est de 38. Et ça, c'est une petite différence quand même qui compte. Et il est plus proche en âge, par exemple, de Jean-Daniel Paulet, 1936, ou de Luc Moulet, par exemple, très bon exemple, qui est lui aussi, je crois, de 1938. Donc, il va faire ses premiers films avec un léger décalage par rapport aux aînés de la Nouvelle Vague, mais pleinement imprégné de l'esprit de la Nouvelle Vague, qui est légèrement passé, mais qui demeure. C'est à peu près les années où Romère fait ses premiers films aussi. Romère, qui lui est arrivé, quoique plus âgé, a fait ses premiers longs-métrages un petit peu en décalage avec Godard, Truffaut, Truffaut étant le premier, quoique étant le plus jeune, à faire les 400 coups en 1958, le film sort en 59. Donc il a une relation qui n'est pas exactement parmi les fondateurs ou les initiateurs de ce courant qu'on a appelé la Nouvelle Vague. Il s'inscrit un petit peu en marge et c'est un statut finalement qu'il va garder tout le long vis-à-vis de la Nouvelle Vague, vis-à-vis de ses aînés qu'il admire ô combien. Mais globalement, cette marge, c'est celle qui sera la sienne dans le cinéma français. Il serait plus judicieux de le comparer en cela à un cinéaste qui aura des relations assez d'animosité assez forte avec la Nouvelle Vague, c'est Maurice Pialat. Pialat est né en 25, mais il fait son premier long métrage, on l'a montré il y a 2 ou 3 ans, L'Enfance Nue en 67-68. Et là, il y avait une relation d'amitié assez forte entre Pialat et Eustache. Il y a une relation, une situation en tout cas dans le cinéma français qui est assez proche dans l'un et l'autre cas. Et Eustache d'ailleurs invitera Maurice Pialat à jouer dans Mes Petites Amoureuses. Et il y a un autre cinéaste qui est mort en début d'année, qui lui aussi était plus âgé, 10 ans de plus que Stache, qui a un statut assez singulier, plutôt parallèle à Nouvelle Vague, c'est Jacques Rosier. Jacques Rosier, outsider jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, où il est mort à 95 ans cette année, et il gardera ce même statut, voilà, marginal. Et c'est difficile de faire plus marginal que Jean Eustache, pour un cinéaste à la fois aimé, reconnu, mais qui va demeurer même au-delà de sa mort, puisque je vous le disais, ses films étaient quasiment invisibles depuis 40 ans. Donc cette situation très singulière, qui en fait à la fois la force de son cinéma, cette liberté incroyable et son indépendance, et en même temps les difficultés qui sont demeurées jusqu'à cette année pour voir les films. Quoi.
Alors pour moi, il y a quand même un lien qui, dans mon esprit, le lie à la Nouvelle Vague, c'est Jean-Pierre Léo.
Bien sûr. Bien sûr. Alors il est aussi avant La Maman et la Putain, qui est un film qui date de 73, qui a 50 ans cette année. Il est présent dans Le Père Noël a les yeux bleus, qui est le deuxième film de Jean Eustache, 1966, tourné à Narbonne, dans la ville où Eustache a grandi. Et c'est un film qui va se faire grâce à l'aide matérielle et financière de Jean-Luc Godard. Donc les relations existent, hein, depuis la fin des années 50, depuis le début des années 60, les relations entre Eustache et Godard particulièrement existent de cette manière-là. C'est un peu le gars qu'on a envie d'aider, quoi, qui est tellement présent, qui montre tellement de velléité pour faire des films, que Godard lui file un coup de main, que Jean-Pierre Léo, qu'il sollicite, va tourner. Il y aura une relation toujours très très forte entre Léo et Eustache, et Jean-Pierre Léo sera particulièrement marqué par la mort de Jean Eustache, comme il le sera 3 ans plus tard, en 84, par celle de François Truffaut. Ça fait partie vraiment des phares de sa vie, quoi, des pygmalions en quelque sorte, qui ont œuvré, qui ont conduit la carrière de Jean-Pierre Léo, qui, lorsqu'il rencontre Jean Eustache en 64, en tout cas l'année où se tourne Le Père Noël à les yeux bleus, en 66, pardon, Jean-Pierre Léo, je crois qu'il est né en 44, donc il a 21, 22 ans, quoi. Donc ça va être effectivement une relation forte, ils feront 2 films ensemble, Le Père Noël à les yeux bleus en 66, La Maman et la Putain en 73, mais ça s'arrête là, et il y a ce film central, évidemment, La Maman et la Putain en 73. Ça fait près de 10 ans donc, que Eustache fait des films. On est à 8 ans à peine de sa mort, hein, puisque la carrière, en quelque sorte, de Eustache, mais c'est un peu impropre de parler de carrière, c'est 64-81, c'est 17 ans, c'est ridicule. 17 ans, c'est très peu. Mais c'est une douzaine de films. Et ce qu'il est important de préciser, c'est que d'emblée, il affirme sa singularité, sa liberté, son indépendance, que je soulignais tout à l'heure. Mais d'emblée aussi, et très vite, il va s'affranchir de tous les formats. Je veux dire, c'est une leçon pour tous les cinéastes français aujourd'hui qui produisent des films tellement convenus, tellement conventionnels, tellement formatés, subissant évidemment la pression des financiers, des producteurs, des télévisions, des plateformes aussi aujourd'hui. Mais la liberté que Eustache a manifestée d'emblée, dès ses 2 premiers films, puis passant au documentaire, mais cette domination de documentaire-fiction à très peu court finalement, tellement il brouille les pistes en permanence, quoi. Il tourne en 67-68 Le Cochon, qui est un film documentaire. Il le tourne avec Jean-Michel Barjol, un autre cinéaste qu'on a pas mal oublié. Et puis, par la suite, il ne fera toujours qu'alterner entre court, moyen-métrage, long-métrage. Et quand il tourne La Maman et la Putain en 73, qui est le film qu'on retient avant tout, ça fait déjà 10 ans qu'il fait des films, mais ce n'est que son premier long-métrage de fiction. Et évidemment, il passe au long-métrage, donc étant imprévisible, tout de suite, il fait un film de 3h40.
Il y a au cinéma un raccourci schématique qui s'est établi au cours des temps et qui s'est établi entre 1h30 et 2h. On a fait des dérogations pour des durées plus longues, 3-4 heures, pour des films après un spectacle. Pourquoi cette dérogation n'aurait-elle pas lieu pour des films intimistes?
Que sont devenues les fortifications et les petits bistrots des barrières? C'était le décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. Où sont donc Julo, Nelly, Casque d'or et petit Louis le costaud, si célèbre alors? Que sont devenus les fortifications et tous les héros des chansons?
Mais, et je tiens à le signaler d'emblée, on va y revenir, c'est qu'il y a un film qui pour moi est plus central que La Maman et la Putain, et que j'ai particulièrement à cœur de montrer au cours de ce cycle. C'est un film, à mon avis, unique dans l'histoire du cinéma, et qui est vraiment un moment charnière dans l'œuvre de Stache et dans sa vie. Ce film-là s'appelle Numéro Zéro, il porte bien son titre, Numéro Zéro. Il le tourne en 71, je crois. Alors on va le montrer en décembre, la date, ça sera le samedi 9 ou le samedi 16 décembre, et j'ai invité Philippe Azoury, qui est l'auteur de ce livre, à le présenter pour bien dire combien ce film est emblématique de la démarche et du parcours de Jean Eustache et combien ce film est unique dans l'histoire du cinéma, puisque à partir de là, Eustache, il y a un entretien extraordinaire. Quand on diffusera le film, je pense qu'on en lira des extraits, peut-être on le distribuera aussi, on en fera quelques photocopies. Il y a un entretien qui, à mon avis, est totalement indispensable pour voir le film. C'est vraiment une sorte de diptyque, quoi. Il y a le film et l'entretien. Un entretien comme on en faisait à l'époque, un entretien de 16 pages, un entretien fleuve, comme on dit, où Eustache dit quelle a été pour lui sa démarche, son intention, son ambition peut-être, de repartir à zéro avec ce film. Mais pas seulement de repartir à zéro dans son parcours, mais de remettre les compteurs de l'histoire du cinéma à zéro. Quand il fait ce film-là, il veut totalement mettre de côté ce qu'il a fait, c'est-à-dire 4 films, du côté de Robinson, 64, Le Père Noël et les yeux bleus en 66, Le Cochon en 68, je crois, et La Rosière de Pessac en 69. Et en 70-71, il imagine ce film qui est 2 heures d'entretien avec sa grand-mère. Il prend 2 caméras, il prend un chef opérateur. Du jour au lendemain, il a une discussion avec sa grand-mère, à laquelle il était très attaché. Et il a le sentiment qu'elle lui dit des choses essentielles sur lui, sur sa vie, son enfance, sur sa famille, mais même sur la France, sur la sociologie de la France, sur l'histoire de la France, prise par le bas en quelque sorte, par la condition ouvrière, la condition prolétaire qui était la sienne dans laquelle il a grandi. Et là, en lui parlant, elle brasse finalement 6 générations de sa propre vie, mais aussi de l'histoire de France. Et il se dit, mais il faut absolument filmer, enregistrer ça. Et il avait cette liberté et cette spontanéité de se dire, là, il y a un film. Donc, il va réunir son chef opérateur attitré, Philippe Théodière, avec qui il a réalisé plusieurs films, qui va tout de suite se mobiliser. Ils vont trouver quelques bobines de film, ils vont prendre 2 caméras qu'ils vont placer dans le dos de Jean Eustache, qu'on trouve en amorce de biais, de dos. Et le film, c'est 2 heures d'entretien en temps réel avec sa grand-mère. Et Jean Eustache la relance, lui pose des questions, la fait boire du whisky pour que la parole vienne plus facilement. Et il va, en fait de montage, lui qui était un réel monteur, hein, qui a travaillé pour d'autres, qui a monté un film du Luc Moulet, un film de Jacques Rivette, qui a monté Les Idoles de Marco, par exemple, qui avait vraiment une science et une... Comment dire, le montage, c'était vraiment son souci, plus que le tournage. C'était vraiment l'impression que le film s'inventait et le film s'écrivait. Il va mettre simplement bout à bout ses bobines, ce qui est une sorte de, une manière de repartir à zéro radical. Il avait une formule, Jean Eustache, qu'il citait souvent. Et d'abord, lui s'inscrivait vraiment dans la lignée de Lumière, des frères Lumière. C'est-à-dire qu'on pose la caméra et on laisse tourner la caméra pendant une demi-heure. Alors, les frères Lumière, c'était plus subtil que ça. Hein. On sait qu'il y a des reprises, il y a d'autres reprises, même pour la sortie des usines Lumière. Mais Eustache avait cette formule, dès lors que la caméra tourne, le cinéma se fait tout seul. C'est pas la peine de t'en rajouter, comme disait une publicité autrefois. Et donc, dans le cas de Numéro Zéro, la caméra va tourner, et on a 2 heures non-stop d'entretien avec sa grand-mère. Et c'est un film extraordinaire.
Sans montage.
Un bout à bout, mais où apparaissent même les amorces et les fins de bobine, le blanc, etc. Donc le montage tel qu'il existe, ce n'est pas un montage, c'est un bout à bout des bobines. Comme une bobine se terminait, le chef opérateur lançait la caméra suivante et on est dans ce bout à bout-là. Et c'est extraordinaire ce que Stache disait à l'époque de Numéro Zéro. Il disait « J'ai décidé de rompre avec le cinéma que je faisais parce que le cinéma m'étouffait. Comme je travaillais d'une manière plutôt artisanale, je n'avais pas tellement l'impression de mettre en cause le système. J'avais au contraire l'impression de faire toujours la même chose. Mais avant tout, c'est moins par rapport au cinéma que par rapport à moi que des problèmes se posaient. Chaque film me rendait la vie plus difficile. Quand j'en finissais un, je pensais toujours que j'allais pouvoir envisager les choses autrement, vivre un peu mieux. Et c'était le contraire qui arrivait. Je vivais de plus en plus mal. Et partant de ce constat, il va se dire, voilà, on va remettre tout à zéro. La production, c'est lui qui assure la production de ce film-là, mais c'est un film qui me coûte très peu, très très peu. Et à partir de là, il va imaginer une sorte de chaîne avec un numéro zéro. Son souci n'est pas de montrer le film. Son souci est de le produire, de le réaliser avec des moyens extrêmement limités et de se dire que ce film vaut tant. Si quelqu'un est prêt à l'acheter, il en fait ce qu'il veut, mais avec cet argent, je fais un numéro 1 que je vends à son tour. Puis avec cet argent, qui m'aura rapporté davantage que le numéro 0, je fais un numéro 2, un numéro 3. Il imaginait numéro 0 comme une locomotive de films à venir et qui, à chaque fois, expérimenterait une formule nouvelle qui ferait fi de tous les moyens de production et de réalisation qui existaient jusqu'alors. Alors ça a été un moment critique dans sa vie qui lui a permis de passer à autre chose.
Chaque film étant la possibilité...
offrant les moyens et la possibilité du suivant.
D'accord, ok.
Et donc c'est repenser totalement la production aussi. Et c'est évidemment repenser sa liberté propre et par rapport à sa volonté, ses ambitions, et surtout repenser la place que chaque film occupe dans sa vie, puisqu'on le voit bien dans les extraits que je viens de citer, c'est qu'il a toujours la volonté de vivre un peu mieux, de vivre un peu moins malheureusement, un peu moins chichement, pauvrement, qu'il n'a vécu finalement tout au long de sa vie. Donc ça sera un instant critique qui va être vraiment un moment, un tournant dans sa vie, dans son œuvre, dans la pensée qui était la sienne, dans son rapport au cinéma. Et finalement, ce film numéro 0, il va se passer 10 jours entre le tournage et la première projection. C'est un truc fou, 10 jours entre le tournage et la preuve. Sachant que le tournage, c'est une journée, à peine. C'est 2 heures, littéralement. Et il va se dire, pour que ce film existe, il suffit qu'une ou deux ou trois personnes le voient. Et à partir de là, je ne me soucie pas de sa diffusion. Je le vends et la personne qui l'achètera en fera ce qu'elle voudra. Il va se dire, j'imagine une projection. Donc il a imaginé une projection, il l'a organisée. Et il a invité 10 personnes. 8 personnes sont venues, dont Jean-Marie Straub, cinéaste que je pense il appréciait, et que moi j'apprécie infiniment, et auquel on consacrera une rétrospective, Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. 8 personnes l'ont vu, donc le film existe, et après il va passer à autre chose. Mais ce à quoi il va passer, c'est un film auquel il songeait déjà depuis quelques temps, pour lequel il écrivait déjà des dialogues, pour lequel il notait, parce qu'il avait une mémoire extraordinaire, il pouvait restituer au mot près un dialogue qu'il avait eu une heure plus tôt, il se posait dans un café avec un cahier, il reconstituait un dialogue. C'est ce qui va passer pour La Maman et la Putain. Et finalement, La Maman et la Putain, à la suite de numéro 0, il va l'écrire, on sait que c'est un dialogue fleuve, hein. C'est essentiellement un dialogue, La Maman et la Putain, c'est 3h40 quasiment de dialogue entre une chambre à coucher et des cafés parisiens, pour caricaturer un peu.
Tous les dialogues sont écrits dans La Maman et la Putain ?
Tout est écrit à la virgule près.
Ah, même la scène...
Archi écrit. Je pense qu'il n'y a pas de film de l'histoire du cinéma plus écrit que ça. Il était d'une précision maniaque, obsessionnelle, Jean Eustache.
C'est-à-dire que... Le monologue de Françoise Leroy...
Entièrement écrit, à la virgule près, j'insiste.
Ah d'accord.
À la virgule près. Et Jean-Pierre Léo et Françoise Lebrun en ont toujours témoigné. C'était d'une difficulté de restituer ce dialogue, parce que Eustache était impitoyable. Le moindre changement dans un mot... dans une virgule, dans une respiration, etc., était aussitôt sanctionné, il fallait recommencer la prise. Vraiment, Jean-Pierre Léo a eu toutes les difficultés du monde à apprendre ses heures, c'était la folie pour lui d'apprendre ses monologues ou ses dialogues. Tout est écrit, comme aucun film sans doute n'a été écrit dans l'histoire du cinéma. Il était impitoyable là-dessus, mais vraiment.
Des maisons de 6 étages, ascenseur et chauffage, pour couvrir les anciens talus.
Et pour vous assurer que les comédiens ne changeaient pas un seul mot, vous deviez vous-même vous référer à votre texte ?
Je le connaissais par cœur, et si vous voulez, je peux vous le réciter. Vous souvenez-vous de la scène où Françoise Lebrun chante une chanson d'Elmé ?
Vous le donne tout simplement.
Après, Jean-Pierre Léo allume la radio pour entendre... celui qu'il nomme le prédicateur du petit matin, et comme il s'en dort très tard le matin, il écoute à 5h10, 5h20.
Pas de gens ont une occupation sédentaire. Ils ne s'exercent pas suffisamment. Je dirais même qu'ils ne marchent pas assez.
Après, il éteint la radio et il dit « J'écoute souvent le matin. »
Je l'écoute souvent le matin.
« Car je ne dors pas. »
« Je ne dors pas. »
Depuis longtemps. Il ne s'écarte jamais d'un pouce.
Pas d'un pouce de sa ligne.
De son texte. Son débit est parfaitement exact. Depuis des années, il termine de la même façon.
De la même façon.
Je ne sais pas s'il est grand, petit, gros ou maigre, chauve ou barbu. Il n'est qu'une voix.
Je ne sais pas s'il est grand ou petit, gros ou maigre, chauve ou barbu. Il n'est qu'une voix.
Le petit Louis réaliste est devenu garagiste et Bruant a maintenant sa rue. Julot sera de l'Institut bientôt et Nini possède un château. Il n'y a plus de fortifications ni de petits bistrots de barrières. Adieu les corps de toutes les chansons, des jolies chansons de la guerre.
Eustache avait une jolie façon de résumer La Maman et la Putain. Le synopsis, il disait, c'est l'histoire d'un jeune homme à Paris l'été. Il se donne l'été, juillet-août, pour lire À la recherche du temps perdu de Proust, et il n'y arrive pas. Moi, j'aime beaucoup résumer La Maman et la Putain comme ça. Et on le voit effectivement lire un volume, je crois le premier, de La recherche du temps perdu. Sachant que cette notion de temps perdu et de recherche même du temps perdu, elle est très très forte chez Eustache. C'est là toute l'acquaintance qui peut exister entre Proust, le projet littéraire de Proust et le projet cinématographique, et peut-être en partie littéraire aussi d'Eustache. C'est que Eustache a toujours été à la recherche de ce temps perdu. Et le cinéma, pour lui, c'était aussi une façon de filmer la perte, d'attester d'une perte. À la fois de se mettre en quête, de revivre des émotions, d'essayer de reconstituer quelque chose, de retrouver les lieux, parce que c'est le cas pour La Maman et la Putain, c'est le cas pour Mes Petites Amoureuses qui traitent de son enfance. Il voulait absolument retrouver les lieux précis de son premier baiser. Par exemple, quand il tourne le premier baiser dans Mes Petites Amoureuses, Luc Béraud, qui était assistant réalisateur, dit que non seulement il voulait retrouver l'endroit, mais il s'est même efforcé de tourner le jour anniversaire de ce premier baiser. Il avait une hypermnésie, il connaissait toutes les dates, il connaissait les lieux, et il était extrêmement malheureux quand les lieux avaient changé, qu'il ne pouvait pas tourner sur les lieux mêmes parce que les paysages avaient totalement été défigurés, quoi. Donc il y avait cette force de son cinéma, cette force, mais une sorte de recherche presque vaine, presque une sorte d'impuissance comme ça, d'essayer de saisir quelque chose qui était passé, qui était finalement perdu. Et le cinéma était cette énergie déployée pour quelque chose d'un peu vain, mais qui permet en tout cas de restituer une émotion et de la partager avec le spectateur et la spectatrice, quoi.
L'entretien est assez dense, alors je pense aussi aux spectateurs qui ont peut-être une idée un peu partielle, tout comme moi, de cette filmographie. Là, pour rassembler un peu tout ce que
t'as bien raison.
On vient d'apprendre, là, et pour partir de cette pièce centrale qui est la plus connue. Donc en 73, La Maman et la Putain, avec Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont et Françoise Lebrun, que tu as résumé en rapport avec La recherche du temps perdu, mais dont on pourrait dire aussi qu'on a une relation triangulaire d'un jeune homme qui a une relation avec une femme plus vieille que lui, Bernadette Lafont, chez qui il habite, et puis qui rencontre une jeune femme de son âge, assez libre, avec qui se noue une histoire profonde, sentimentale, sensuelle, etc. Donc c'est 3h40 de dialogue, ça fait peur quand on l'entend, mais ces 3h40 passent beaucoup plus facilement que ce qu'on peut imaginer. Donc, tu nous as dit, avant ça, rupture avec son cinéma, et surtout le cinéma en général, avec ce film sur sa grand-mère, composé uniquement d'un entretien, les bobines collées les unes après les autres, et projetées une semaine après son tournage. Avant ça, il y a eu des films documentaires et des courts-métrages de fiction, c'est ça? Puisque tu as dit que La Maman et la Putain, c'était son premier long-métrage de fiction. Dans un de ces courts-métrages de fiction, Le Père Noël a les yeux bleus, il y a Jean-Pierre Léaud.
Exactement.
C'est ça. Le film sur le cochon, qui est un documentaire sur quoi? L'abattage d'un cochon?
Exactement. Alors, je vais peut-être restituer chronologiquement et redire un petit peu les années. Il y a un premier film en 64, qui s'appelle Du côté de Robinson, qu'on va montrer ce 21 octobre. Il y a un deuxième film, de fiction toujours, moyen-métrage aussi.
Ça parle de quoi, du côté de Romain Sand?
C'est deux mecs, dragueurs, qui assez misogynes, qui veulent embringuer une jeune femme rencontrée dans un dancing et qui vont finir par lui piquer son portefeuille. Bah, c'est une histoire de deux mecs assez minables qui s'ennuient. L'ennui est souvent présent et important parmi les personnages de Stache. Donc c'est deux mecs qui rencontrent une fille dans un dancing, comme on disait autrefois. Et voilà, ça dure trois quarts d'heure, c'est ancré dans le quartier de Clichy, à Paris.
Vous avez déjà trompé votre mari?
Quelle
coïncidence. Ouais, je sais bien qu'il faut jamais faire confiance aux femmes. Mais je m'en fous, je suis comme ça.
Le Père Noël les yeux bleus, qui fait à peu près la même durée, trois quarts d'heure, lui se passe à Pessac. Et il y a toujours cet aller-retour entre, comme on disait autrefois, hein, Paris, la province. Et les deux existent et coexistent toujours très fort.
Donc dans le sud,
où il a grandi en grande partie, ouais. Et lui, qui était du sud-ouest, entre Narbonne et Bordeaux, il avait un accent très prononcé. Et les accents sont toujours très présents dans les films de Stache. Les façons de parler, la langue même est très très importante, elle est vraiment restituée en son direct avec tous ses défauts, ses accroches, etc. C'est important la langue et la parole et la voix chez Eustache.
Ah oui, oui, elle m'avait dit qu'elle vous avait vu ce matin avec un Père Noël aux yeux bleus, qui vous connaissait.
Sous ma barbe, j'étais devenu confiant. Des filles qui n'avaient jamais levé les yeux sur moi me souriaient en passant.
Donc il y a ces deux premiers moyens-métrages que Eustache lui-même a rassemblés après la réalisation du deuxième sous un titre, Les mauvaises fréquentations, et ce sont ces deux moyens-métrages, Les mauvaises fréquentations, qu'on va projeter, que je vais présenter ce samedi 21 octobre. Il y aura une seconde séance de rattrapage, comme souvent. Donc ça, c'est 64-66. Après, il y a La Rosière de Pessac. La Rosière de Pessac, c'est un film qu'on peut dire documentaire et qu'on peut même dire ethnologique. C'est sa ville natale, Pessac. Et depuis la fin du 19e siècle, une tradition, un rituel, une cérémonie médiévale avait été réactivée où était célébrée la jeune fille la plus vertueuse de la ville de Pessac, qui donnait lieu à une procession, à une cérémonie. Et il se disait qu'en filmant, lui disait qu'il aimerait filmer cette cérémonie tous les 10 ans, et qu'à travers ce contexte-là, ce serait une façon de voir comment la France évolue d'un point de vue sociologique et historique. Parce que le fil rouge, finalement, du cinéma de Jean Eustache, c'est de filmer le temps qui passe, c'est de se rendre compte de ces failles qui existent entre un film et un autre, entre une cérémonie et une autre, et d'essayer de saisir quelque chose du temps qui passe et que l'on perd et disparaît. Ça, c'est La Rosière de Pessac en 68, et 10 ans plus tard, il va s'y tenir, en 79, il va tourner une deuxième Rosière de Pessac. Donc, ce sont deux films d'1h05 environ, qu'on va montrer en novembre, et comme Eustache le souhaitait, on va montrer La Rosière de 79 en premier, puis La Rosière de 68, une façon de remonter le temps. Ça sera en novembre. En 70, il y a Le Cochon, qui est un moyen-métrage, non d'ailleurs, qui est un long-métrage, excusez-moi, de 65 minutes, co-réalisé avec Jean-Michel Barjol. C'est vraiment une journée, l'abattage d'un cochon jusqu'au débitage en saucisse, en rillettes, etc. On suit comment le cochon est tué, comment il va être débité et comment chaque partie va être consacrée à la production de charcuterie, de viande. Et comme il avait envie de questionner ce que c'était le regard d'un cinéaste, il va inviter Jean-Michel Barjol, un autre cinéaste, et il va mélanger les images de l'un et de l'autre pour restituer ce qu'a été cette journée. Ça, c'est un film, hélas, qui reste inaccessible. Alors, je rêvais de vous le montrer, mais c'est un film qui demeure, pour des questions de droit, inaccessible et que moi-même, je n'ai jamais pu voir. J'espérais avoir l'occasion de le voir avec vous. Mais c'est un film qu'on ne pourra pas montrer. Et donc, quand il y a ce moment charnière de numéro 0 en 71, il a réalisé ces quatre films-là. Les deux moyens-métrages qui constituent Les mauvaises fréquentations, La Rosière de Pessac, 68, et Le Cochon, 70. Et donc, numéro 0 est le premier long-métrage, littéralement, d'ampleur, puisque numéro 0 fait 2 heures.
On est bête quand on est jeune. C'était des caprices de gosse, c'était terrible, ça.
La maman et la putain, 73, qui lui fait 3h40. Le film sera présenté à Cannes, il fera scandale à Cannes.
Grand prix spécial d'une majorité de jury, La maman et la putain de Jean Eustache.
Vous êtes fier d'avoir été couronné par un jury ainsi composé?
Je suis très très fier, très, très surpris et très fier. Enfin, très heureux. Je ne les connaissais pas, maintenant j'ai un peu envie de les connaître.
Il obtiendra le Grand Prix, et puis un certain statut et un certain succès à l'époque, qui va lui permettre d'obtenir de Gaumont, parce que jusque-là, quand même, il n'a jamais tourné dans des conditions normales de production, avec une certaine aisance. Mais vu le succès relatif remporté, en tout cas d'estime et relativement public, remporté par La Maman et la Putain, Gaumont va lui proposer, des conditions à peu près normales dans le cinéma français, de tourner le film de son choix. Et là, il va avoir à cœur de se replonger dans son enfance et de réaliser une sorte de chronique de son enfance, mais le terme de chronique serait sans doute à revoir, et de faire un film en couleur, c'est son premier film en couleur, et de le faire dans des conditions plutôt confortables et de tourner sur les lieux, comme je le disais, à Narbonne, qui sont les lieux de son enfance. Donc ce personnage de Daniel, Daniel c'était le nom de Jean-Pierre Léaud dans Le Père Noël à les yeux bleus, qui était déjà tourné à Narbonne. Ce personnage de Daniel, c'est en gros l'enfant qu'a été Jean Eustache dans les années, fin des années 40, début des années 50 peut-être plutôt.
Madame Duloup a lu dans le journal que j'étais reçue au collège.
Bien sûr, les résultats des examens sont toujours dans le journal. On l'achètera, on le gardera.
Je ne comprends pas puisque l'enseignement est gratuit.
Les cours, oui, mais c'est pas tout. Il y a les livres, les cahiers, les vêtements. Il faut s'habiller pour aller à l'école.
Ça, c'est un film tourné en 74, qui sortira en 75. Et finalement, c'est un film qui va rencontrer un véritable échec public. Et à partir de là, il n'aura plus jamais des conditions appréciables, souhaitables pour tourner des films. Donc il va trouver des solutions pour réussir à tourner. Mais il n'a plus que quelques années à vivre, puisqu'il décidera, le 5 novembre 81, de mettre fin à ses jours. Donc, après Ma Petite Amoureuse, 74-75... il tourne un film incroyable, qui est moi le premier film de stage que j'ai vu, avant La Maman et la Putain. Un film qui pour moi compte autant que La Maman et la Putain. Le film sort en 77, il s'appelle Une sale histoire. Une sale histoire, j'en dis un mot très rapide, c'est un film qui est composé de deux volets. Deux volets d'une vingtaine de minutes chacun, le tout fait une cinquantaine de minutes. Un volet fiction, un volet documentaire. Donc cette problématique du rapport fiction-documentaire, elle est très présente. Ça fait partie vraiment des fils rouges qu'il est important de suivre quand on voit ces films. Ce rapport entre fiction et documentaire qui sont là rassemblés au sein d'un même film. Puisque il filme son ami Jean-Noël Pic, qui raconte une histoire de voyeurisme dans les toilettes d'un café parisien à la mode Pic et Grenelle dans le 15e. Ce document dure une vingtaine de minutes. Jean-Noël Pic, un personnage qu'on a vu déjà dans La Maman et la Putain, raconte cette histoire de voyeurisme dont il dit avoir été l'acteur quelques années plus tôt, où il observait le sexe des femmes dans ce café, dans les toilettes de ce café, une obsession. Et il raconte ça à une assemblée dans un appartement parisien en 77, dans une assemblée qui est essentiellement constituée de femmes, qui l'écoutent et qui réagissent. Ça dure 20 minutes. Puis il va restituer, mot pour mot, le monologue de son ami Jean-Noël Pic qui raconte cette histoire. Ça donne un dialogue, puisque les femmes réagissent dans un second temps. Et ce dialogue, tel qu'il le retranscrit mot à mot, il va le confier à un acteur reconnu à l'époque, Michael Lonsdale. Michael Lonsdale va apprendre ce texte, et là encore, très précisément mot pour mot, tel que Jean-Noël Pic l'a prononcé de manière spontanée, plus ou moins improvisée, parce que c'est une histoire que Jean-Noël Pic racontait souvent.
C'est-à-dire, on nous a fait croire que le désir, enfin d'un homme en tout cas, dépendait de la beauté de la femme. Et je me suis aperçu que c'était complètement faux.
Complètement faux. Que c'était le sexe et que le reste ne comptait pas.
Et, autant le premier film était tourné dans des conditions documentaires assez précaires, en 16 mm, avec un montage un peu approximatif, en tout cas qui garde un caractère brut, autant là, il va trouver les moyens de tourner en 35 mm, avec une caméra posée, et ça donne un film qui dure un peu plus longtemps, 28 minutes. Le premier fait 22. Donc on a un volet fiction, un volet documentaire, un personnage qui raconte une histoire personnelle, un acteur qui raconte la même histoire, qui n'est pas la sienne, mais qu'il joue, devant une assemblée de gens qui jouent aussi, qui rejouent les dialogues des femmes qui ont réagi spontanément. Et ce qui est formidable, un peu comme pour La Rasière de Pessac, c'est que, donc Une sale histoire, ce sont ces deux volets mis bout à bout, mais il diffuse, et il y tenait absolument, le volet fiction en premier, puis le volet documentaire. Et donc naît un trouble incroyable entre ces deux films. Puisque quand on ne sait rien du film, on voit le premier, on voit un film de fiction avec un acteur qu'on connaît, Michael Lonsdale, une histoire dérangeante, mais qui est incarnée par un acteur très respectable. Et puis dans un second temps, cette histoire qui est quand même, à l'époque et encore aujourd'hui, sans doute difficile à entendre, parce qu'on peut y voir beaucoup de sexisme, de misogynie, etc., de relations problématiques à la sexualité, on la réentend une deuxième fois, et par un personnage en plus qui l'incarne beaucoup plus sensiblement, en quelque sorte, puisque c'est son histoire personnelle. Là, vraiment, pour moi, c'est un film emblématique de l'œuvre de Stache, puisque non seulement il y a ce rapport problématique entre fiction et documentaire, mais il y a un autre fil rouge qui est important chez Stache, c'est la reprise, la répétition, le double, le vrai et le faux. Alexandre, dans La maman et la putain, a des phrases très inspirées sur la relation du vrai et du faux. Eustache privilégiait toujours, comme Alexandre dans La maman et la putain, la copie à l'original, le faux au vrai. Alexandre dans La maman et la putain dit « le faux, c'est l'au-delà ». Ça ouvre des portes incroyables, le faux est souvent insoupçonné.
Moi, je le dis pour nos auditeurs, Fabien lève l'index de la même façon qu'Alexandre.
Exactement, sans doute.
Je crois beaucoup à ce genre de choses. Tu te souviens de ce type qu'on voyait souvent à Montparnasse? Le sosie de Belmondo, qu'on appelait le faux Belmondo. Au début, l'effort qu'il faisait pour ressembler au vrai était un peu ridicule. Mais avec une insistance maintenue en plusieurs années, il est arrivé à une telle perfection dans la ressemblance qu'il est devenu plus vrai que le vrai. Maintenant, c'est Belmondo qui est devenu la caricature de son double. Pas sa caricature, son ombre.
Et donc, toute l'œuvre de Stache est parsemée de doubles et de répétitions et de reprises. Et c'est passionnant. Ça donne lieu à des expérimentations diverses. Par exemple, souvent les films fonctionnent par deux. On a dit déjà que Les mauvaises fréquentations, déjà c'était deux films, les deux premiers films, qui sont rassemblés en un. Une sale histoire, c'est un film et un deuxième qui sont rassemblés en un seul aussi. La Rosière de Pessac, on l'a dit, il y en a deux. Un en 68, un en 79. Numéro 0, il y a un film qui existe de 2 heures en 71, et puis Eustache finalement va réaliser un deuxième montage de 52 minutes pour la télévision. Donc il y a deux films en fait autour de cette grand-mère. Numéro 0, et le deuxième s'appelle Odette Robert. Donc tout de suite, il y a une reprise. Le Cochon, on l'a dit, c'est deux cinéastes, avec l'idée de mélanger les images de l'un et de l'autre. Ce qui est extraordinaire dans Une sale histoire, je pense qu'on a rarement vu ça, et sans doute pas avant Eustache, dans le cas d'Une sale histoire, c'est que dans le même film, on a le film et son remake. Ce qui est quand même extrêmement singulier. Et il nous montre la copie, là encore, en quelque sorte, avant l'original. Ce qui fait naître beaucoup de troubles dans nos rapports à la représentation, à la parole, à ce que c'est aussi que la relation fiction et documentaire. J'ai montré il y a quelques jours, quelques semaines, ce film de Frederick Wiseman, Welfare. Welfare, qui est un film extraordinaire du cinéma documentaire. Je l'ai montré notamment parce qu'actuellement, il y a une pièce de théâtre adaptée de Welfare qui est jouée au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, qui est inspirée et dont les dialogues sont la reprise, je crois, mot pour mot, je n'ai pas vu la pièce, du film documentaire de Wiseman. Et cette reprise-là, de se dire... Ce que la parole spontanée...
Je précise que le film documentaire, qui était excellent, consiste en fait à une immersion en 1973, justement.
Exactement.
La même année qu'à maman, il y a putain, tiens. Dans les bureaux de l'aide sociale, dans des bureaux d'une aide sociale d'un quartier de New York, et qu'on assiste de façon assez saisissante. D'ailleurs, on ne comprend pas comment... La caméra peut être là et saisir ça sans que ça dérange les gens, quoi. On assiste au dialogue entre les gens qui demandent de l'aide pour manger, pour se loger, qui ont des histoires de vie très compliquées, qui sont dans l'urgence, et des employés de l'aide sociale qui ont la volonté de faire pour le mieux, mais qui sont pris dans des cadres légaux qu'ils doivent respecter, des procédures, etc. Et la confrontation entre la réalité des choses et les procédures mises en place pour les traiter donne quelque chose de tout à fait étonnant et saisissant.
Ouais, c'est vraiment d'une grande force. Ouais. Mais du coup, les dialogues sont totalement spontanés, quoi. C'est cette interaction qui existe entre le travailleur social et les personnes de part et d'autre de la table ou du bureau. Mais ce qui est troublant, c'est là encore... de prendre cette parole spontanée et de la restituer mot pour mot et de la jouer au théâtre, de même que dans le cas d'Une sale histoire, Eustache prend un film documentaire dont il restitue mot pour mot et ce texte devient un texte littéraire, et en l'occurrence un scénario qu'il va confier à un acteur, Michael Lonsdale. De même qu'Eustache avait cette pratique, qui est celle-là même du mari dans Anatomie d'une chute d'ailleurs, si on s'en souvient bien, c'est qu'Eustache, alors qu'avait cette grande mémoire, était à même de restituer mot pour mot un dialogue, une conversation qu'il avait avec quelqu'un, et il prenait beaucoup de notes sur ses conversations, qui inspiraient de plus en plus sur la fin de sa vie ses films, et quand il est mort, il avait plusieurs projets de films qui étaient littéralement la reconstitution de dialogues et de conversations qu'il avait eu avec des amis au téléphone ou dans des cafés, et on sait que La maman et la putain est largement construit sur cette méthode-là. Mais Eustache, à la fin de sa vie, avait un dictaphone, et il enregistrait les gens à leur insu. et il reproduisait ce texte, et de ce texte, il faisait un texte littéraire ou un texte cinématographique, mais du coup, s'insinue un trouble extrêmement fort entre une parole prononcée dans la vie, dans le courant de la vie, et ce qui en est fait au cinéma. Et cette mise en scène de la parole, c'est vraiment, là encore, un fil rouge très très fort qu'on retrouve dans La Maman et la Putain, dans Numéro 0, je le disais, qui consiste en une discussion avec sa grand-mère, dans Une sale histoire, mais aussi dans les films qui suivent, par exemple, où je parle d'un film qui s'appelle Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch, où on retrouve son ami Jean-Noël Pic, qu'il fait venir dans un appartement. Il a convié des gens qui ne savent pas exactement ce qui va se passer, et il invite son ami Jean-Noël Pic, ça c'est un film de 79, je crois, le film fait 35 minutes, je crois, et il l'invite sans lui dire exactement ce qu'il va lui proposer. Il l'invite, Jean-Noël Pic débarque, finalement il y a une caméra, il y a des gens qui attendent Jean-Noël Pic, et il lui propose de d'écrire et de commenter le tableau de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices. Pic est un peu embarrassé, il dit qu'il ne connaît pas grand-chose à Jérôme Bosch, et finalement il se lance, et c'est un film absolument passionnant que Eustache va retravailler considérablement en montage, et c'est un film qui en quelque sorte prolonge le geste d'une sale histoire. De même que un an plus tard, c'est quasiment le dernier film de Jean Eustache en 1980, un film passionnant qui viendra clore le cycle Eustache en avril. Le film s'appelle Les photos d'Alix. C'est autour du travail d'une photographe qui est décédée très tôt en 83, Alix Cléo Roubaud, qui était la compagne du poète mathématicien Jacques Roubaud, et qui va commenter auprès du fils d'Eustache, Boris Eustache, ses propres photos, des photos qu'elle a réalisées.
Comme quoi une photographie peut être personnellement pornographique tout en étant publiquement décente. Mais toutes les photographies sont sentimentales.
Donc on entend sa voix, on voit les images à l'écran, et peu à peu, il y a un trouble qui s'insinue entre ses paroles et les images qu'on voit. Au début, ça correspond, puis au fur et à mesure, elle semble indiquer des choses qui ne sont pas dans l'image. Et au cours des 18 minutes que dure le film, il y a un trouble extrêmement fort qui va exister entre la parole, sa mise en image, la représentation, les photos, tout le cinéma d'Eustache est là en quelque sorte. Et là encore, on a ce prolongement de la mise en scène et de la représentation de la parole que moi je trouve absolument passionnant. Eustache, à la fin de sa vie, avait pour projet un film qui s'appelait Peine perdue, que les Cahiers du cinéma vont éditer à la mort d'Eustache, qui était un texte qui restituait vraiment les tout derniers mois d'Eustache, qui était dans une profonde dépression. Il faut dire qu'à la fin de sa vie, il avait chuté en Grèce d'une fenêtre et il s'était cassé les jambes. À la fin de sa vie, il passait son temps au téléphone, à discuter. Il paraît qu'il appelait des inconnus au milieu de la nuit pour leur lire du Beckett. Il enregistrait les discussions au téléphone avec les gens. Et tout ça, ça donne les derniers projets d'Eustache qui prolongeaient de manière radicale et à l'extrême impossible, en quelque sorte, tout ce qui avait fait le cinéma d'Eustache jusqu'alors. J'aimerais vous lire un extrait du livre de Philippe Azoury que je vous recommande et je pense qu'on en aura un ou deux exemplaires en vente au cinéma au moment de la rétrospective. Alors j'évoquais deux axes importants dans l'œuvre de Jean Eustache, la répétition, le double, et puis cette quête désespérée de retrouver le temps perdu, d'une autre manière que Proust, mais de manière aussi obsessionnelle. Et Philippe Azoury, dans ce livre passionnant, écrit donc: répéter, c'est essayer de placer son manque dans le temps. Le confronter à l'oubli qui le change. Le confronter au risque de ne plus manquer de cette chose qui faisait trop en vous. Il y a l'objet perdu et il y a le manque. Et le film est l'entreprise insensée qui va essayer de les conjoindre. Il n'y a plus dès lors de réalité. Le fantasme fabrique seul ses images, ses souvenirs, son désir. On ne se souvient pas pour résoudre quelque chose, on fait des films non pas pour espérer recoller à ses souvenirs, mais pour retrouver le goût qu'a laissé la perte de cette chose. Le film est à l'endroit même où le manque et la répétition se croisent pour œuvrer ensemble à faire durer quelque chose dans le temps, encore un peu. Proust condamnait le simulacre de l'image dans Le Côté de Guermantes. Ces photographies d'un être devant lequel on se le rappelle moins bien qu'en se contentant de penser à lui. Il ne faut pas attendre du cinéma, et a fortiori du cinéma de fiction, simulacre de simulacre, qu'il soit une solution apportée à la perte. Le cinéma n'est pas une consolation ni une réparation. Le cinéma est une articulation. Il fait avec le manque, il fait avec le faux, il fait avec la mémoire, il fait avec l'inanimé, il fait avec le vivant, il fait avec le jeu, il fait avec le présent. Il répète mal quelque chose qui, quoi qu'il en soit, s'enfuit. Mais en instaurant ce manque, il permet au cinéaste de s'instaurer comme sujet. Elle tient en cela l'opération fragile qui consiste à refaire jouer sa vie par d'autres en la filmant comme un artifice avéré. La question ensuite est de savoir ce que nous faisons de nos fantômes, à les reconvoquer ainsi dans un film ou dans un texte, une œuvre, un spectacle, une mélodie.
En tout cas, marque fortement le lien avec Piala dont tu parlais.
Exactement. Il y a beaucoup d'échos avec Piala, et notamment dans le rapport à l'enfance. On peut tout à fait rapprocher deux films qui sont quasiment contemporains, qui est Mes Petites Amoureuses, dans lequel Piala joue, et qui est donc l'enfance de Stache, et La Maison des Bois, qu'on n'a pas pu montrer, hélas, quand on a fait ce cycle Piala, qui est ce feuilleton que Piala a réalisé en 70-71, donc vraiment peu auparavant, pour la télévision française. Et on retrouve vraiment quelque chose de... On sent que l'enfance chez Piala était très très présente, que c'était une obsession et qu'il avait un rapport très fort à sa propre enfance et à ses enfants aussi, lui qui sera père plutôt sur la fin de sa vie. Et on trouve une même forme à la fois de tendresse et de cruauté très forte et que les deux coexistent. Et on sent que l'un comme l'autre ont vécu leur enfance à travers ces pôles, entre ces deux pôles de la tendresse et de la cruauté et de l'affection et du manque d'affection. Et qu'il y a là, à travers le cinéma, quelque chose à retrouver. Et l'œuvre, en tout cas, s'est construite aussi à travers ce manque-là et cette perte-là. Voilà, et c'est effectivement, il y a un parallèle à faire entre les deux cinéastes que je trouve très, très touchant. Ouais.
Se souvenir, c'est croire encore que tout vient de recommencer. C'est revoir l'être qu'on adore. C'est retrouver passé. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. Un souvenir, c'est toute la tendresse, des beaux jours d'ivresse que l'on veut retenir. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, une heure en frais, qui ne veut pas finir.
Donc, prochain et premier rendez-vous avec le...
Voilà, le premier rendez-vous, c'est donc le samedi 21 octobre, où je présenterai moi-même donc, Les Mauvaises Fréquentations, les deux premiers moyens-métrages de Jean Eustache. Et puis en novembre, une date qui reste encore à déterminer, mais ça sera sur le tout prochain programme, on vous présentera les deux Rosières de Pessac. Donc il y aura une petite entorse à la chronologie, puisque déjà on montrera un film de 79, puis le film de 68. Mais où vous verrez justement cette relation entre le double, la répétition, la reprise, à travers ces deux films. Et puis, avec Philippe Azoury lui-même, en décembre, un peu avant les vacances de Noël, on vous présentera Numéro Zéro, qui est vraiment pour moi ce moment charnière dans l'œuvre, et que je veux être aussi celui de cette rétrospective. En janvier, La maman et la putain. En février, Mes petites amoureuses. Avec, j'espère, Luc Béraud, qui était l'assistant de Jean Eustache sur Mes petites amoureuses et qui a écrit un livre sur le tournage, au travail avec Jean Eustache. J'espère qu'il pourra être avec nous en février pour montrer le film. En mars, Une sale histoire. J'ai invité Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma, à présenter le film. J'espère que ça va pouvoir se faire. Et puis en avril, on terminera a priori avec deux derniers films de Jean Eustache, que sont donc Le jardin des délices de Jérôme Bosch et Les photos d'Alix, tournées quelques mois avant la mort de Jean Eustache en novembre 1981. Voilà, c'est la possibilité, j'espère, pour vous, pour moi-même, de revoir ou de découvrir l'œuvre de Jean Eustache qui va bien au-delà de ce film évidemment extraordinaire qu'est La maman et la putain, mais qui a jusqu'à présent trop bien dissimulé une œuvre qui était trop peu visible et qu'on espère restituer ici dans sa diversité, sa multiplicité et toute la richesse qui est propre au cinéma de Jean Eustache.
Merci, merci Fabien. En tout cas, bon, je pense, j'espère que vous aurez l'occasion d'entendre cette émission peut-être chaque mois avant chacun des
films. Ce serait formidable.
Avant chacun des films. Voilà, donc là, on vient de découvrir que c'est quelque chose de très dense que tu nous invites à voir cette année avec cette rétrospective. Mois par mois, je pense que ça, tout ça va s'éclairer. En tout cas, merci beaucoup de nous ouvrir ces portes et de nous dévoiler ces pans inconnus du cinéma, inconnus du commun des mortels que nous sommes. Et nous t'en remercions.
Merci Pierre, à bientôt à toutes et à tous.
À chacun son temps, il n'y a plus de fortifications, mais il y aura toujours des chansons.
Vous écoutez cette émission dans le cadre d'une rediffusion. Je viens ici vous rappeler l'actualité des séances de la rétrospective Jean Eustache au Bourget. Le samedi 13 janvier à 17h et le mardi 16 janvier à 14h30, à l'affiche La maman et la putain, avec Bernadette Lafont, Françoise Lebrun et Jean-Pierre Léo. Un film de 3h40, ça fait un peu peur, je vous le concède, elle passe cependant beaucoup plus vite que ce qu'on peut s'imaginer. Et voir La maman et la putain sur grand écran, en copie restaurée, c'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Je vous conseille de ne pas la laisser passer et je vous remercie pour votre écoute. Bonne séance.